Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et je suis ravie d'accueillir Lisa. Bonjour Lisa.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux réunies pour parler du film Les aventures du prince Ahmed de la réalisatrice Lotte Reiniger. Nous sommes très heureuses de discuter et d'analyser ce film d'animation de 1926. Vous pouvez le découvrir sur la plateforme Mubi, avec laquelle nous sommes ravis de collaborer. Vous trouverez, dans la fiche informative de l'épisode, un code d'accès vous permettant d'accéder à 30 jours d'essai gratuit. La plateforme a de nombreux films réalisés par des femmes. Nous en avons même fait une liste. Mubi a également soutenu la campagne de financement participatif pour le deuxième numéro de notre revue papier, qui sortira le 9 mai. Nous les remercions chaleureusement. D'ailleurs, dans le premier numéro de notre revue papier, intitulé « Première », on parlait déjà de Lotte Reiniger par le biais de l'article « Il était une fois Lotte Reiniger » de Angélique Brunel. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur cette pionnière de l'animation et du cinéma en général, et plus particulièrement de ce film que l'on trouve magnifique. Alors Lisa, est-ce que pour te donner la parole, tu pourrais nous présenter, commencer en tout cas nous présenter Lotte Reiniger, qui est-elle et comment en est-elle venue à réaliser ce film d'animation ?
Alors Lotte Reiniger, qui est née Charlotte Reiniger, mais qui a pris le nom de Lotte toute sa vie. Alors elle est née en 1899 à Berlin. Très jeune, elle s'intéresse beaucoup au théâtre d'ombre, notamment venu des pays asiatiques, mais aussi aux productions de Georges Méliès, donc ce qui explique les influences que ça a eu sur son travail. Elle débute sa carrière dans la troupe du réalisateur Paul Wegener, qui est un acteur et réalisateur allemand, notamment pendant le mouvement de l'expressionnisme allemand. Et donc du coup, il lui permet de réaliser des génériques sur des films à lui. Par exemple, un film qui s'appelle Le Grand Mariage, qui est sorti en 1916, ou alors... Alors, je ne sais pas si je le prononcerai bien, Amelne et le charmeur de rat, qui est un film de 1918. Après avoir réalisé ses génériques pour Paul Wegener, en 1919, elle réalise son premier court-métrage qui s'appelle « Les ornements des cœurs amoureux », ce qui lui permet d'être remarquée et d'ensuite se lancer dans sa carrière. Notamment, elle est toujours épaulée de son mari qui s'appelle Karl Koch, avec un son très allemand. Et donc du coup, Lotte Reiniger, elle est surtout connue pour, en tant que pionnière du cinéma d'animation, parce qu'elle utilise une technique de papier, ce qu'ils appellent le cinéma des films, pardon, de silhouette. Et donc c'est une technique de papier découpé pour réaliser donc du coup des silhouettes sur des décors en ombre chinoise.
C'est ça. Et pour faire vivre justement ce papier découpé qui peut être hyper plat, elle invente ce qu'on appelle la caméra multiplane.
C'est ça.
Qui en fait est une caméra, comme son nom l'indique, qui va être suspendue. Ah, c'est horrible, on fait des gestes, mais en fait vous ne nous voyez pas, mais on vous mettra évidemment dans la partie informative une petite photo de la caméra pour que vous voyez, et ça parle vraiment bien quand on voit le schéma. C'est la caméra qui en fait est en profondeur, et on a plusieurs couches.
En plongée. Et donc du coup, on fait toujours des gestes. Il y a 4 couches. Donc en fait, ce sont des plaques de verre, donc du coup transparentes. Sauf la quatrième, parce que la quatrième sert au décor. Donc c'est une plaque de verre qui est semi-opaque. Donc les décors sont posés dessus. Sur la première et la troisième couche de verre, c'est là où sont faits les effets spéciaux. Et sur la deuxième couche de verre, c'est là où sont posés les personnages qui ensuite vont être mis en mouvement, sachant que ces personnages, donc, comme on le disait, sont des silhouettes découpées. Et parfois, les personnages sont tellement précis qu'elle peut ajouter, pour les habiller, on va dire, jusqu'à 50 pièces de papier découpé différentes. Et c'est, donc, du coup, ces personnages sont articulés avec des petits bouts de fer qui permet à Lotte Reiniger et ses assistants et ses équipes de manipuler les personnages. Et donc à chaque fois, on est vraiment sur une technique d'animation qui est plutôt ancienne. Donc c'est vraiment, on prend un plan, on arrête, on décale un petit peu nos personnages et ainsi de suite pour créer le mouvement D'ailleurs, si vous voulez une illustration de, enfin, qu'on mettra aussi, mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Manon Virtuelle. Elle a fait un épisode qui est très court, ça dure 5 minutes, qui s'appelle L'autre Reiniger, artiste ancêtre. J'imagine qu'on vous mettra
oui,
la
bien
référence.
Sûr. Oui, ça, c'est vrai que c'est difficile de le dire à l'oral, oui. Même si tu l'as très bien expliqué, Lisa.
Et elle explique très très bien, c'est vraiment, elle a schématisé le principe, donc je vous conseille de voir cet épisode de Manon Virtuelle.
Et cette caméra d'ailleurs qu'elle invente va être hyper popularisée par un autre pionnier de l'animation, parce que c'est Walt Disney lui-même qui va reprendre et s'approprier finalement cette technique et cette invention pour ses propres films. Je pense notamment à Cendrillon qui va être fait de cette manière où, comme tu le disais très bien Lisa, ça permet en fait de faire bouger les personnages, mais le reste ne bouge pas. Donc comme on est sur un principe finalement de stop motion, ça permet de ne pas devoir tout bouger et potentiellement de créer des décalages entre une image et l'autre pour que ça fluidifie l'ensemble.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut rappeler que, enfin, on attribue souvent injustement le premier film d'animation préservé, réalisé par les studios Walt Disney. Donc c'est Blanche-Neige qui sort en 37 ou 38 et qui est en couleur. Mais en fait, comme on le disait, c'est ce film-là, en fait, c'est celui de L'autre Reiniger, Les aventures du prince Ahmed, qui lui était sorti en 26. En fait, Walt Disney s'approprie totalement le travail de L'autre Reiniger et perfectionne parce qu'il a beaucoup plus de moyens. On le voit dans le générique de ses films, elle est assistée de quelques personnes, mais c'est pas des grandes équipes comme chez Disney. Donc il perfectionne vraiment cette caméra multiplane et il se l'approprie totalement, notamment pour Blanche-Neige et après, comme tu disais, pour Cendrillon. Et c'est très visible dans Blanche-Neige, parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus petite, j'avais la VHS que j'ai vue jusqu'à l'usure. Et juste après le film, tout après le générique, il y avait un tout petit documentaire où on voyait justement les animateurs de chez Disney travailler sur les calques et tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Disney, jusque dans les années 40, enfin même après, il me semble, les femmes ne faisaient pas forcément partie des équipes d'animation. Il y avait des femmes, elles étaient engagées pour des tâches un petit peu plus...
Les couleurs notamment.
C'est ça,
il y a un super livre dessus qui s'appelle Ink and Paint, qu'on vous listera. On l'avait déjà fait, il me semble, lorsqu'on vous a parlé des héroïnes Disney avec Laura. C'était il y a 3-4 ans maintenant. Donc ça date un peu, ça fait partie des premiers épisodes du podcast. Et c'est un super livre qui malheureusement n'est pas encore traduit, mais que vous pouvez trouver même en PDF assez facilement, d'une autrice américaine qui parle justement des studios et avant et après une grève de ces femmes coloristes, puisque les conditions de travail étaient quand même assez compliquées. Non seulement fallait coloriser chaque cellulose en fait qui constitue une pellicule, mais en plus avec des produits, vous l'imaginez bien, hyper chimiques, dans des conditions où elles étaient complètement le dos cassé sur des tables pour voir de plus près ce qu'elle peignait. Donc il y a eu une grève en tout cas. Et en fait, voilà, c'était le seul département quasiment exclusivement féminin. Donc c'est un chouette essai. Et si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite vraiment vivement à le lire si vous vous intéressez à l'animation, mais pas que. Parce que c'est historiquement et sur les combats des femmes et sur les conditions de travail aussi de ces femmes qui étaient toutes issues pour le coup d'une classe sociale hyper précaire, de voir comment l'envers du décor des plus grands classiques Disney, et c'est vraiment passionnant.
Oui, parce que tous ceux qui étaient chefs de département ou chefs animateurs n'étaient vraiment que des hommes, c'était contractuel, c'était vraiment écrit chez Disney. Je sais plus si c'est Manon Virtuel qui en parle ou si c'était sur une chaîne anglaise peut-être, mais j'avais vu ça. Il y avait même une copie du contrat et on voit des images d'archives où les femmes, elles, décalquent voilà. ou colorisent. Et jusqu'à une certaine date, elles étaient vraiment, c'était vraiment interdit, c'était marqué. Parce qu'ils n'estimaient pas que les femmes pouvaient être assez douées pour prétendre à des postes supérieurs d'animatrices. Et donc du coup bah, ça a un peu changé maintenant, il y a beaucoup plus de femmes dans les métiers de l'animation, mais il faut quand même noter que, et vous avez sûrement dû en parler dans votre épisode des Héroïnes Disney, qu'en tout cas pour un film de studio, il faut attendre 2013 avec La Reine des Neiges pour qu'un film soit co-réalisé, je ne dis pas réalisé, je dis bien co-réalisé par une femme. Donc c'est Jennifer Lee qui co-réalise avec Chris Buck, et on est en 2013.
Et le premier film long métrage Pixar réalisé par une femme est sorti cette année. C'est exact. Alerte Rouge par Domeschi. Donc voilà, pour dire que les premières fois existent encore en 2022. Et voilà, et c'est quand même assez stupéfiant. L'animation, alors on en parle assez souvent hein, qu'un film ne se fait pas seul, il se fait en équipe, mais l'animation, l'équipe peut être deux fois plus importante qu'un film en prise de vue réelle, puisque il faut voilà toute la partie technique du dessin, que ce soit le storyboard, la partie animation, enfin il y a énormément pour le coup de documentaires assez passionnants. Je pense notamment, alors pour le coup il y a quasiment pas de femmes, mais un documentaire sur le film d'animation de Disney, toujours La Belle au bois dormant, qui s'appelle Sleeping Beauty, qui est disponible hein, sur Disney+, qui est un documentaire qui dure 1h30, hyper riche, sur comment ils ont réalisé le film, et on voit que c'est plan par plan, et que parfois une personne se charge juste de dessiner une main, et que cette main, ça peut prendre un mois, deux mois à la dessiner telle qu'ils avaient envie qu'elle soit dessinée. Ou encore aussi sur Disney+, et là pour voir un peu plus de femmes, il y a la formidable série sur La Reine des Neiges 2 qui nous montre les coulisses du film. Et là on voit d'ailleurs Jennifer Lee parler et expliquer aussi son rôle en tant que... Alors là, elle est co-réalisatrice, mais aussi en tant que responsable d'animation chez Disney. Donc, c'est vraiment passionnant. Voilà, pour des petits compléments, en tout cas, à l'animation, ça peut être chouette de voir ça.
Bah, ce qui est fou, d'ailleurs, parce que quand on revient, du coup, sur les aventures du prince Ahmed, on est en 1926, et donc Lott Reiniger fait ça avec sa toute petite équipe, et c'est un travail monstrueux. Il sort en 26, mais le film met 3 ans.
3 ans, c'est ça, oui. Ouais. De 1923 à 1926, elle est sur la création du film. Alors, un film d'animation, mais de toute façon toujours un peu plus
beaucoup
de temps.
Beaucoup plus de temps, bien sûr.
Mais bon, aujourd'hui, avec les techniques, et puis si vous êtes un gros studio, parlait tout à l'heure de Disney pour ne citer que lui, il travaille en même temps sur plusieurs projets d'animation, mais il faut bien se rendre compte qu'elle, avec sa petite équipe, il travaillait sur un seul film à la fois. Donc c'est vraiment 3 ans... voilà, uniquement pour travailler sur ce film.
Oui, en faisant mes recherches, j'ai vu que le film comportait plus de 300 000 images à 24 images secondes. Donc pour faire quand même un film qui dure un petit peu plus d'une heure, c'est assez impressionnant. Surtout ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui vont jusqu'à 50 pièces de détails. C'est un travail en fait titanesque, et bon bah le numérique n'existait pas, donc c'est assez appréciable de voir un film qui reste quand même même s'il il a presque un siècle maintenant, reste quand même d'une fluidité assez impressionnante, et surtout dans la caractérisation de chaque personnage, c'est vraiment très très riche. Parce que ça s'inspire, les aventures du prince Ahmed s'inspirent des contes des mille et une nuits. Donc du coup, si vous avez l'occasion de le voir, vous verrez qu'il y a quand même tout un monde qui est vraiment créé. Donc c'est un vrai conte, il y a de la féerie, il y a des combats, il y a des créatures, pas mythologiques, mais mythiques. Donc c'est assez... C'est assez impressionnant et je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. Moi, quand j'ai découvert l'autre Renegar, j'avoue, très récemment, et en voyant des images de du Prince Ahmed, mais aussi d'autres courts-métrages, je me suis dit, ah, mais on dirait du Michel Oslo.
Oui, totalement.
Vraiment, parce que voilà, moi, je suis née à la fin, au milieu des années 90, donc
Grandi avec
voilà, j'ai grandi
Kirikou.
avec Kirikou, mais surtout, ben, je me suis dit, mais en fait, c'est prince et
Oui,
princesse,
tout à fait.
tout de suite. Et lui, la cite d'ailleurs, hein, il s'en cache pas que ses films, notamment quand Prince et princesse était sorti en 99, il me semble, que il s'était vraiment inspiré de sa technique après qu'il a amélioré parce qu'ensuite il a sorti Les Contes de la Nuit en 2011 et Ivan Tsarevitch et La Princesse Changeante, il me semble que c'est 2016. Et là on était déjà passé au numérique, mais c'est toujours le même principe. Donc vous pouvez aussi vous amuser à comparer un petit peu les films d'Oslo et les films de Lotte Reiniger. Et d'ailleurs il utilise, enfin après il le fait plutôt à sa sauce, mais il utilise vraiment ce principe de conte. C'est toujours assez, c'est plutôt cruel. Les femmes ont des rôles assez intéressants chez Oslo, notamment dans les films que je viens de citer. Et il utilise pareil ce même système. Bon, j'imagine bien sûr que c'est plus comme en 26, mais Lotte Reiniger, du coup, a plongé ses pellicules films dans des bains colorés, ce qui fait que chaque fond. Pas chaque fond, à chaque fois qu'elle change de plan, mais vous verrez dans les films, les fonds sont différents. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du.
Du orange, enfin
Y
c'est
a,
très
oui,
beau. Dans le
c'est
Prince
vraiment très
Ahmed,
beau.
c'est vraiment visible parce qu'on est sur un film un peu plus long.
Oui.
Mais même dans ces courts-métrages, alors beaucoup sont en noir et blanc
C'est
avec
ça.
pas de fond. J'ai lu en faisant des recherches qu'en fait certains courts-métrages avaient perdu leur couleur suite à la restauration de certains plans, mais qu'en réalité tous étaient, en tout cas on le suppose, colorés. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses qui m'a enfin, tout de suite alertée quand j'ai découvert les aventures du prince Ahmed. C'est vraiment ces couleurs hyper vives et qui en même temps appartiennent vraiment, je trouve, à l'imagerie des mille et une nuits, avec ces couleurs hyper bleues, hyper orangées, le rose. Enfin, on est vraiment sur un festival de couleurs qui apporte une dimension à la fois hyper moderne et en même temps qui vraiment montre aussi encore plus le contour des silhouettes qui sont de manière hyper précise, parfois même dans les costumes.
Oui,
Enfin,
ça s'intègre super bien à vraiment toutes les autres couches, notamment ben, les personnages et les décors, comme on disait, qui sont sur le dernier plan.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait plus de 60 courts-métrages. Donc c'est quand même une personne qui était quand même, enfin, qui travaillait de manière prolifique. C'est pour un travail colossal, puisque donc on l'a dit, elle avait une équipe assez réduite et c'est un travail hyper minutieux. On vous listera d'ailleurs un super documentaire qui est en accès gratuit sur YouTube où on la voit au travail. Ça, je pense que c'est une des choses aussi hyper importantes de voir des femmes au travail au cinéma. Et là, on la voit au travail, on la voit déplacer aussi avec beaucoup de minutie, et il faut pas voilà, faut pas être brusque, et il faut être hyper patient. Et du coup, c'est assez étonnant que voilà, dans les années 20, elle arrive à produire autant de films. C'est vraiment quelque chose qui est quand même assez rare dans ces années-là, puisque bah, ça demande enfin, du temps, comment dire, de pouvoir justement réaliser comme ça, pas à la chaîne, parce que ce serait pas très, très beau de dire ça comme ça, mais en tout
Bah,
cas,
un rythme plutôt
voilà, un
soutenu.
rythme soutenu. Juste une petite chose, les aventures du prince Ahmed, on en parlait hors enregistrement, est considéré comme le premier film d'animation. Or, lorsqu'on fait des recherches, on se rend bien compte que c'est en réalité le premier film d'animation conservé dans cet état. C'est-à-dire qu'il peut être visible, la preuve, il est disponible voilà, sur une plateforme, on peut le voir et la qualité est d'ailleurs excellente. Mais en réalité, voilà, il y a déjà eu, Lisa, tu me disais avoir trouvé notamment un film d'animation argentin.
Oui, parce que ça m'étonnait aussi, comme tu disais, que le premier long métrage d'animation arrive qu'en 26, parce qu'on a quand même une production picturale assez importante des siècles avant, et puis l'arrivée de la photographie, enfin, c'était quand même étonnant. Et en cherchant, donc j'ai vu, et c'était aussi pour me prouver que Blanche-Neige, c'était pas le premier, pas merci Disney. J'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelait L'Apostole, donc l'apôtre. Et en fait, c'est un long métrage d'animation argentin qui est réalisé par quelqu'un qui s'appelait Quirino Cristiani, qui a réalisé un deuxième film aussi. Et en fait, c'est un film qui date de 17 et qui dure 70 minutes. Donc c'est assez, c'est à peu près comme Le Prince Ahmed. Alors malheureusement, il n'y a que ces infos-là, parce que c'est un film qui... Et on n'a plus de traces de ce film-là. Toutes les copies ont été détruites, pareil, à la fin des années 20, dans un incendie. Ce que j'ai pu en voir sur Internet, je ne sais pas si ça a été détruit dans un but politique, parce que le film apparemment est une satire politique sur le président argentin en exercice à l'époque. Donc est-ce que c'est lié, je ne sais pas, ou c'est peut-être juste des questions de préservation et de conservation. On sait que c'est quelque chose c'est une vraie problématique, en tout cas dans le cinéma.
D'ailleurs, tu parles du contexte historique. Ça ne vous a pas échappé lorsque Lisa a présenté le Trainingueur. Tu as dit qu'elle est née à Berlin.
Oui.
On est donc en période de guerre. Il faut savoir que Lotte Reininger, elle a fui l'Allemagne lors de l'accès au pouvoir, lorsque Hitler accède au pouvoir, pour justement pouvoir tout simplement aussi vivre de son art, parce que vous imaginez bien que en période de guerre, et malheureusement on le voit avec l'actualité, que la culture est hyper verrouillée, et du coup elle fuit Berlin. Alors elle s'installe un peu partout en Europe. Elle part à Paris, à Londres, à Rome. Elle revient pendant une période à Berlin, puis elle revient. Mais ce qui lui permet finalement de faire vivre aussi son cinéma à l'étranger, de l'exporter. Je pense que c'est aussi peut-être ça la différence avec le film que tu nous citais, le film argentin que tu nous citais.
Oui.
C'est que ces films ont pu être vus en dehors de son pays. Et donc, du coup, il y a pu y avoir un certain héritage.
Oui, bien sûr. Bah, surtout, en plus, le couple, parce qu'elle part avec son mari qui la suit et qui est souvent avec elle... sur ces films, et aussi ils s'en vont parce que eux ils sont quand même plutôt proches des artistes, ils ont des amis qui sont de confession juive, donc du coup c'est vraiment le pire climat politique pour eux, et surtout ce qu'ils font c'est quand même considéré comme du travail d'avant-garde. Et c'est ce que le régime, en tout cas le régime sous Hitler, considère comme quelque chose de... C'est pas mes mots, mais comme quelque chose de dégénéré, en fait. Donc, c'est vraiment pas... Il y a une culture sous ce régime-là, qui est un régime quand même totalitaire, fascisant. Et il y a des codes sur ce qui est admis, ce qui n'est pas admis. Enfin, je pense que tout le monde a déjà vu des photos d'autodafés où les nazis faisaient des grands feux de livres qu'ils considéraient pas comme collant aux idéaux et à l'idéologie, pardon, de leur régime. Donc ils fuient aussi, comme tu disais, pour préserver leur art. Et
il y a des anecdotes, notamment pendant la période où il fuit l'Allemagne et il se retrouve à Paris, où les aventures du prince Ahmed est projetée à Paris. Les retours sont hyper bons, tout le monde est hyper emballé, parce qu'il y a quelque chose d'irréel, de magique, hein, et nous-mêmes, en le découvrant à notre époque, on trouve ça hyper majestueux. Enfin, voilà, je pense que ça évoque beaucoup, par le biais du conte, inévitablement, ça évoque beaucoup la magie. Et en fait, il rencontre notamment Jean Renoir, qui vont... où ils vont se lier d'amitié avec lui et ça va devenir un ami très proche. Et du coup, voilà, ils vont vraiment s'initier en quelque sorte au cinéma de manière hyper globale et avec, comme tu disais, un groupe d'artistes aussi qui combat en fait les régimes totalitaires, qui va leur permettre voilà, de continuer à travailler malgré tout et d'exporter plutôt leur travail. Ils sont aussi par exemple amis avec Visconti avec lequel ils vont vivre quelque temps, donc il y a vraiment voilà, il y a vraiment une ébullition finalement créative ouais. Malgré un climat de guerre et hyper complexe pour eux en étant réfugiés allemands en Europe.
Ouais. Et c'est vrai que oui, ils deviennent très amis avec Renoir. D'ailleurs, Renoir surnommera Lotte Reininger la maîtresse des ombres. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que ce que tu disais pour Visconti, ils vivent avec lui. Il y a même un film de Renoir qui, lui, devait tourner en Italie qui s'appelle La Tosca en 41 mais qui peut pas finir. Donc du coup c'est le mari de Lotte Reininger qui s'occupe de finir le film à sa place et à la Sistana il prend qui ? Ben, il prend sa femme pour travailler avec lui comme ils sont toujours en duo et sa femme est épaulée elle ben, de Luchino Visconti sur ce film là donc c'est vrai que toutes ces histoires d'amitié leur permettent vraiment de survivre à cette période de tension. Et il me semble que dans les années 40, ils arrivent quand même à s'installer en Angleterre.
C'est ça.
Ce qui change, comme tu le disais, beaucoup de fois de pays, mais tout en restant dans ce qui est considéré en tout cas comme la zone européenne. Mais il y a un moment où ils arrivent quand même à se poser en Angleterre.
Et notamment à Londres, où Lotte Reininger va travailler à la BBC. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'images d'archives de la BBC où on voit Lotte Reininger travailler. Je pense que ça lui permet justement de créer des archives sans en avoir conscience, hein, bien sûr, mais dans de nombreux documentaires que j'ai vus, que ce soit gratuitement sur YouTube ou ailleurs, on a énormément d'images d'elle dans les bureaux, enfin, en tout cas dans les locaux de la BBC. Donc c'est vraiment aussi j'ai envie de dire une occasion qui va lui permettre voilà, de se faire un nom oui et non, puisque preuve en est, il faut quand même faire des recherches sur elle pour en parler. Néanmoins, depuis qu'on a conscience qu'il faut remettre un peu sur le devant de la scène des pionnières, elle revient quand même assez systématiquement parmi la liste de noms un peu fidèles, donc c'est ça. Et il me semble d'ailleurs qu'ils finiront par adopter la nationalité britannique,
il me semble que oui.
Ce qui va leur permettre vraiment de...
Oui, parce que un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils doivent retourner en Allemagne parce que la mère de Lotte Reininger est malade et mourante. Mais après, du coup, ils reviennent en Angleterre et il me semble qu'ils s'installent. Et ce qui lui permet, du coup, on est en 44-45, de réaliser un film qui s'appelle Loi d'or. Et ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas pu réaliser de film. Du coup, on est en 44-45 et c'est le premier film que Lotte Reininger réalise vraiment parce qu'en se déplaçant, ils avaient collaboré donc, du coup, avec les artistes et les réalisateurs qu'on a cités précédemment. Mais elle n'a pas forcément pu s'arrêter, se poser pour pouvoir réaliser des projets personnels. Donc elle réalise ce film Loi d'or. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, du coup, a vraiment mis un coup d'arrêt à sa réalisation et à sa création. Mais il y a beaucoup de négatifs originaux de ces films qui ont été détruits. Donc on estime que c'est à peu près une vingtaine de films qui ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour certains, il existait quand même des copies. Et donc certains films ont pu être sauvés. Mais il y en a à peu près une vingtaine qui ont totalement disparu pendant cette période-là. Ce qui est quand même pas négligeable pour quelqu'un qui a réalisé autant de films.
On va peut-être revenir du coup sur les aventures du prince Ahmed. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. Est-ce que Lisa, tu peux nous dire déjà de quoi parlent les aventures du prince Ahmed ?
Oui, alors comme j'en parlais tout à l'heure, c'est un film qui est inspiré des contes des Mille et Une Nuits. Donc c'est plutôt un film d'aventure, donc forcément les aventures du prince Ahmed. Donc Ahmed, c'est un film qui est divisé en 5 actes. C'est vraiment marqué dans le film, il y a des intertitres, vous verrez. Donc en fait, c'est les aventures de ce jeune prince qui se voit, enfin son père qui est calife, se voit offrir un cheval volant par ce qu'ils appellent le mage africain. On est quand même en 26, hein, donc je ne reviendrai pas sur les caractérisations de personnages. Donc il se voit offrir un cheval volant. Je crois que si c'est un cheval du coup magique, et je ne me souviens plus quel bouton, il y a un bouton qui permet en gros, je crois que si on lui caresse le devant, il se pose, et si on lui caresse la queue, il se met à s'envoler. Ce que le prince ne sait pas. Donc ce mage offre ce cheval au calife, donc le père du prince, mais en retour, il espère que le calife lui donnera en mariage sa fille, la princesse Dinarsadeh. Le père refuse. Mais du coup, le prince Ahmed s'empare quand même du cheval, monte à son dos, s'envole, mais malheureusement, comme on le disait avant, ne peut pas redescendre parce qu'il ne connaît pas les commandes. Donc ensuite, ce prince-là commence un grand périple, et il est suivi du coup par ce mage qui veut absolument, qui est le méchant de l'histoire, hein, qui veut récupérer son invention, mais qui veut quand même aussi se marier avec la sœur du prince Ahmed. Donc il croise la route Paris-Banou, excusez-moi, donc qui est la prince, enfin je sais plus si c'est une princesse ou une divinité d'un pays lointain qui s'appelle le pays Wakwak. Donc c'est un petit peu leur pas leur princesse, mais je crois que c'est leur divinité. Et donc du coup, ils tombent amoureux d'elle, ils l'enlèvent, et on en parlera je pense plus en détail, mais il y a des trucs un peu limite dans le film là-dessus. Donc ils l'enlèvent et ils se retrouvent, ils continuent leur périple, ils se retrouvent en Chine. Sauf que, entre-temps, ils sont interceptés par ce fameux mage qui piège le prince Ahmed et qui l'envoie à la mort, et qui récupère Paris-Banou pour, une fois arrivé en Chine, la vendre à l'empereur de Chine. Mais après, je ne vais pas raconter tout le film, non, mais donc c'est à peu près les prémices du film. Il se trouve que le prince Ahmed va trouver des solutions toutes plus magiques les unes que les autres pour se sortir un peu de son pétrin et aller sauver et Paris-Banou, dont il est amoureux, mais également sa sœur et son propre pays, et déjouer les plans du mage africain et de l'empereur de Chine.
Tu le disais tout à l'heure, c'est un film qui effectivement est inspiré largement, hein, des contes des Mille et Une Nuits. Alors j'ai pas vraiment trouvé les raisons pour lesquelles Lotte Reiniger s'est penché en fait sur ces contes, si ce n'est qu'il y avait vraiment une envie justement de créer un monde magique et possible via justement l'animation, là où la prise de vue réelle étant limitée, même si on l'a dit tous au début, elle est hyper imprégnée de l'imagerie de Georges Méliès. Et cette animation va vraiment lui permettre d'explorer encore plus la dimension conte féerique, qui va de toute façon être, j'ai envie de dire, très collée finalement au cinéma d'animation, qui va rarement finalement, c'est pas du tout un reproche, je suis hyper fan du cinéma d'animation, mais qui va être beaucoup lié à l'imagerie du conte de manière globale. Donc là encore, ça en fait une pionnière finalement dans le genre, j'ai envie de dire, puisque elle va vraiment créer cette multidimension au conte qui va tout d'un coup prendre une ampleur supplémentaire avec l'imagerie.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est à noter que elle adapte quand même dans sa carrière énormément de contes plutôt
Oui.
populaires. Je pense aux contes des frères Grimm ou de Hans Christian Andersen, excusez-moi.
Oui, un de ces films, désolé de te
Non, vas-y.
couper, mais un de ces films les plus connus, c'est Cendrillon, où elle adapte à sa manière ce conte, et qui est disponible d'ailleurs aussi sur Mubi, et il me semble que j'en avais vu quelques extraits sur YouTube, où on voit vraiment que enfin, les contes vont lui permettre justement d'avoir un support plus, disons, plus grand pour elle, ses silhouettes, et créer vraiment tout un univers autour d'une histoire qui existe déjà.
Oui, enfin, tu parlais de la BBC tout à l'heure. Il me semble que d'ailleurs, quand elle travaillait à la BBC, elle a fait énormément de films vraiment beaucoup plus orientés pour les enfants. Parce que quand on dit conte, on s'imagine surtout maintenant un public plutôt jeune, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que notamment en s'inspirant des contes d'Andersen et des contes de Grimm, il y a quand même une partie très cruelle. Dans ces contes dits contes de fées, qui est à ne pas oublier. Et ben, c'est vrai que même dans celui-là, il y a quand même des choses assez. C'est pas tout, tout n'est pas que féerie et créatures mythiques, parce qu'on parle quand même. Bon, maintenant, je pense qu'il y a des parties du film qu'on va plus analyser avec le recul qu'on a et sur les thématiques sur lesquelles nous, on se focalise. Mais bon, ça parle quand même d'un enlèvement.
C'est ça. Oui, bah parlons de ça d'ailleurs. Est-ce que parce que c'est effectivement, on parle quand même d'un prince qui va enlever d'une histoire aussi de mariage
Forcé.
forcé aujourd'hui, et notamment hein, par le biais des films Disney, on a vraiment un lissage du conte qui, quand on le redécouvre, ou ça m'amuse toujours un petit peu de lire aussi des retours du style ah, mais en fait, vous avez vu dans Le Chaperon Rouge, il se passe vraiment ça, et puis ça parle un
Oui.
peu de ça. Effectivement, je pense que le Disney et pas que ont un peu lissé aussi cette image des contes, et le film, et tout comme le film d'animation n'est pas que à destination des enfants, mais dans Les Aventures du Prince Ahmed, alors même qu'on peut tout à fait le voir à n'importe quel âge, il y a quand même une grille de lecture assez différente selon qui
Oui,
la regarde.
selon qui la regarde. Moi, j'étais assez. Ça m'a fait un peu tiquer quand même, parce que déjà, il arrive, donc du coup, avec son cheval volant, il arrive dans ce pays, là, le pays des Wakwak. Il rencontre cette jeune déesse, donc Pari Banou, qui. Alors, déjà, il l'espionne. On est vraiment dans ce truc un petit peu du voyeur. Elle est en train. Elle est transformée en oiseau.
C'est ça.
Et elle a des dames de compagnie, des suivantes, qui elles aussi sont, je ne sais plus si c'est des oiseaux, mais c'est des créatures, donc elles sont polymorphes. Et donc, à un moment, elle va pour se baigner, donc elle enlève son apparence d'oiseau, du coup, elle se retrouve nue. Et ses dames de compagnie aussi, donc elle plonge et on les oublie vite. Mais elle est en train de se baigner, donc elle pense à qu'elle est dans son intimité. Et en fait, lui est là en train de l'espionner. Et suite à ça, il lui vole justement ce vêtement d'oiseau. Et ensuite, il la kidnappe. Et il y a toute une séquence, donc il la kidnappe à dos de son cheval volant. Il y a toute une séquence où il est quand même en train de lui expliquer qu'il est amoureux d'elle. On ne sait pas pourquoi, hein, d'ailleurs, enfin, ça fait partie du conte. Il est tombé amoureux. Et disons qu'il la force vraiment, parce que c'est vraiment. Elle dit pas vraiment oui, elle dit pas vraiment non, donc pour lui, elle lui dit oui. Et donc après, par miracle, je sais pas combien de plans plus tard, elle décide que oui, elle aussi, elle veut partir avec ce prince et qu'elle est amoureuse. Enfin, c'est quand même assez perturbant à regarder maintenant.
Oui, c'est vrai qu'on a vraiment à l'instar des films Disney, pour reciter quelque chose qu'on a cité depuis le début, vraiment une simplification des relations où le prince, la voix, tombe amoureux. Et même dans l'animation, enfin dans les dessins,
Oui.
etc., il y a vraiment, enfin, on ressent aussi tout ce côté presque piège qui se forme autour de cette princesse. Je parle.
comme tu disais, c'est vrai que dans les mouvements de l'animation, on sent que vraiment, elle le repousse, mais lui revient, elle le repousse. Donc, c'est quand même montré très clairement parce que ça reste une animation qui est vraiment très, très fluide et détaillée. J'imagine que, je ne sais pas, après, on est en 26, je ne sais pas quels sont... comment l'hôte Reiniger voyait un petit peu... je ne sais pas quel combat elle avait là-dessus parce que c'est très peu documenté. Enfin, sa pensée, elle, est très, très peu documentée. Donc, je ne sais pas vraiment si elle suit juste le conte, mais j'imagine. Et connaissant les contes des millénies, ce n'est pas très étonnant. Il y a beaucoup d'enlèvements. Il y a quand même, tout le principe, c'est quand même Sherazade qui raconte des histoires à un sultan pendant mille et une nuits, c'est-à-dire 3 ans, oui. Pour quand même pas mourir.
Oui. C'est déjà dans la jeunesse du projet, c'est déjà quand même...
C'est déjà compliqué.
C'est déjà un peu compliqué. Et tout à l'heure, on disait que c'est inspiré des contes des mille et une nuits, mais du coup, on avait noté en particulier le cheval volant. Donc il reprend aussi cette idée d'un cheval qui ne cesse de voler parce que le prince ne sait pas redescendre avec et qui va parcourir justement des lieux tous enchantés, magiques, et Aladdin et la lampe merveilleuse. Donc vraiment il y a déjà en fait cette effectivement cette idée d'aller voir dans d'autres mondes. Et moi, ce que je me suis fait aussi comme réflexion, c'est dans tous les mondes, c'est quand même, les nanas sont quand même, enfin elles ont pas de chance, pour elles c'est non. Pas du tout l'émerveillement du tout, quoi.
Ben non, parce que quand le sorcier là, africain les rattrape, il réussit quand même à enlever cette Paris Banou pour aller ensuite la marchander, se retrouver en Chine et aller la marchander à l'empereur de Chine. Donc on est déjà, et sachant que lui veut épouser en retour du cadeau du cheval la sœur du prince Ahmed. Donc vraiment, on leur demande jamais leur avis. Et puis ça se voit, Paris Banou, quand elle est emprisonnée, elle est représentée, il me semble qu'elle pleure, elle est vraiment elle est agenouillée. Donc c'est pas comme si il le faisait, mais qu'on le montrait pas. Tous les personnages féminins qui subissent vraiment ces décisions, l'animation les montre en train de subir leur destin, en fait.
C'est marrant parce que j'avais pris une phrase parmi toutes les sources que j'ai feuilletées. Il y en avait une qui revenait, alors je pense que ça doit être un truc hyper générique pour présenter le film, mais c'était « Les aventures du prince Ahmed transportent dans un univers magique peuplé de princesses en fuite, d'amour contrarié, de lutte entre les forces du bien et du mal. » Et c'est tout à fait ce qu'on est en train de dire.
Ouais.
Le terme « amour contrarié
ouais, »,
j'étais un peu... C'est pas contrarié, c'est effectivement c'est contrariant, mais
oui, c'est pas contrarié.
C'est pas tout à fait.
Princesse en fuite, pareil.
Elles sont plus enlevées d'ailleurs qu'elles ne fuient.
Oui, les pauvres, elles peuvent vraiment même pas s'enfuir.
Donc quand je l'ai noté en me disant ça pourrait nous servir ça dans.
Non, mais c'est vrai qu'après après le film, comme tu disais, est vraiment dans une exploration de donner corps au conte en dehors du conte écrit et des illustrations et des estampes qui existaient déjà pour les contes en couleur ou en noir et blanc. Et c'est vrai qu'il y a quand même toute cette partie-là, hormis certaines thématiques, qui reste assez magique à regarder. On parlait vraiment du détail, du fait qu'on veuille explorer vraiment un monde qu'on ne connaît pas, parce qu'on est quand même en 26, et comparé à l'animation d'aujourd'hui, et forcément l'accès à Internet et ce genre de choses, je pense pas que parce que c'est pas que pour les enfants, mais je pense que les gens n'avaient pas forcément accès à ce type de production.
Pour, tout à l'heure, on parlait d'une avant-première à Paris, mais il y a quand même eu à Berlin en fait une première projection du film C'était en mai 1926 et il y avait, il me semble, quelque chose comme 1500-2000 invités. Et ça a été un succès à la fois critique, puisque la presse en parlait beaucoup, mais aussi un succès public où tout le monde est ressorti hyper émerveillé. On rappelle hein, que Blanche-Neige n'était pas encore sortie, donc c'était probablement la première fois que les gens voyaient un film d'animation. On peut imaginer, comme nous on a découvert la 3D, voilà, je me souviens très bien des séances d'Avatar en 3D où les gens sortaient et disaient « Ah, j'avais vraiment l'impression de toucher les petits trucs des arbres, là. » Je pense que la magie qui devait s'opérer à l'image des films de Méliès à l'époque devait être vraiment énorme, et ce qui a permis probablement aussi à Lotte Reiniger de pouvoir s'exporter aussi, enfin d'exporter son travail pardon à l'international, où on avait déjà pas besoin, puisque le film est entièrement muet, il est accompagné d'une musique qui d'ailleurs est composée par Wolfgang Zeller. Et donc de ces cartons qui suffisaient juste de traduire pour pouvoir justement diffuser le film à l'international.
Oui, donc c'est vrai que ça rend le film vraiment très accessible. La plupart de ces films d'ailleurs sont des films muets. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs de voir dans la fabrication que beaucoup de mouvements des personnages et donc du coup des films sont calés sur de la musique. Et ce qui fait que ce qui apporte encore cette dimension de fluidité de l'animation, parce que vraiment la musique, qui est le seul outil sonore sur ces films-là, est calée parfaitement, enfin l'image se cale parfaitement dessus. Et notamment dans beaucoup de ses courts-métrages, elle utilise beaucoup de musique de Mozart, Lotte Reiniger.
C'est ça. Et je crois d'ailleurs que ça s'était perdu en fait avec la copie du film, et que grâce à une restauration plus récente, ils ont réussi à caler. Donc si par exemple vous regardez le film sur Mubi, ça a été c'est cette version que vous allez
c'est
voir.
Synchronisé.
Voilà, c'est synchronisé, mais c'est vraiment le travail de restauration qui a permis de recaler les images via la musique, parce qu'on sent bien qu'il y a un... Et là encore, avant Disney et son Fantasia, on sent bien qu'il y a une, enfin que la musique est presque indissociable de l'image et inversement. Et, ça ajoute aussi une dimension hyper dramatique ou magique
ou épique.
À tout le récit.
La composition est vraiment assez impressionnante là-dessus, parce que vraiment on est dans du pur film et de divertissement et d'aventure, et c'est vrai que chaque instant, comme tu disais, que ce soit plus dramatique ou plus, disons, romantique, vraiment, la bande sonore est assez incroyable. Et c'est vrai que, bon, je l'ai mentionné plein de fois, mais on est quand même en 1926. Pour un film, un long métrage d'animation, ça reste impressionnant. Je m'étais fait la réflexion en le voyant d'ailleurs.
Oui, même la synchronisation du son en général. En 1926, on n'est pas encore totalement au point sur la synchronisation.
Oui, on n'est pas encore trop dans le parlant.
Non. Et du coup, voilà, ça paraît déjà dingue d'avoir. Et encore une fois, on a beaucoup, quand on s'intéresse de plus près à l'animation et inévitablement aussi au studio Disney, on va beaucoup parler de Steamboat Willie, où on a ce Mickey qui se met à siffler,
oui.
Et c'est synchronisé. Et en fait, on a déjà en fait des prémices dans l'animation et dans le travail de Lotte Reiniger, de ce travail de synchronisation qui effectivement ne se fait pas via les personnages, puisque pour le coup ces personnages ne sont pas animés en tant que tels, mais toutefois on a déjà un travail de synchronisation qui effectivement est assez bluffant. Par ailleurs, une petite parenthèse, parce que j'y suis allée la semaine dernière, mais au musée d'Orsay à Paris, vous avez une toute petite partie cinéma des premiers temps, et il y a sur quelques tableaux illuminés des silhouettes découpées Alors, il n'y a pas écrit Lothringer, mais en tout cas, si vous voulez voir en fait à quoi ça peut ressembler, il y a vraiment des silhouettes découpées. On nous montre comment cette technique de découpage aussi a permis l'émergence d'un cinéma qui était à ses débuts. En 1926, le cinéma est un art hyper jeune. Hein. Donc, on est vraiment... Voilà, et d'autant plus qu'elle l'a fait, elle a commencé 3 ans avant, donc on est vraiment au début des années 20, ça fait un peu moins d'une vingtaine d'années que le cinéma est vraiment diffusé, donc ça montre bien qu'elle s'empare aussi globalement du cinéma, en dehors juste du cinéma d'animation.
Et je crois, et il faudrait vérifier, mais il me semble avoir lu... sur le site de la Cinémathèque française que dans les années 50 elle avait fait un don justement à la Cinémathèque d'une cinquantaine de dessins et de marionnettes animées dont certaines extraites des aventures du prince Ahmed, donc peut-être aller voir ça
au musée
de la Cinémathèque. Je l'ai pas vu de mes yeux, mais c'est peut-être intéressant d'y jeter un œil.
Oui, d'ailleurs parce que tu parles de ça, mais après les années 50, elle perd son mari, elle arrête d'ailleurs de réaliser pendant, il me semble, 10 ou 15 ans, et elle se consacre uniquement au théâtre d'ombre, évidemment, et on voit bien que c'est quelque chose qui en fait fait partie entièrement de sa personnalité, de son travail. D'ailleurs, elle est, tu le citais tout à l'heure, mais son héritage est hyper présent, puisque Michel Oslo notamment, la cite. Et d'ailleurs, pour continuer dans ce sujet de l'héritage, elle a enseigné l'animation en Europe et aux États-Unis. Donc, elle a vraiment transmis ses connaissances et son bagage à elle en tant que réalisatrice à travers des futures animatrices et animateurs de films, d'animation. Donc c'est vraiment elle est une figure hyper importante et une pionnière qui inévitablement doit être remise aussi sur le devant de la scène.
Ouais, d'ailleurs je conseille, pareil, c'est toujours une, on le mettra j'imagine dans les détails de l'épisode, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Close-up Cinéma et Série. Ils ont toute une partie, toute une sélection qui s'appelle Pionnières. Et en fait c'est une petite série documentaire vidéo. Pareil, les épisodes sont pas très longs, donc il y en a sur Alice Guy.
Oui, c'est animé par Nora Boazzoni.
Exactement. Ouais. Et donc il y en a un sur Lotte Reiniger, si jamais.
On va le lister. par ailleurs, notre collègue Esther Bréjon, j'en profite parce que pour pas l'oublier, mais a un podcast qui s'appelle Silence, elle tourne, où elle s'intéresse justement aux réalisatrices de films oubliés de l'histoire, et elle accorde un épisode entier à Lotte Reiniger de manière un peu plus globale. Donc n'hésitez pas, parce que nous c'est vrai qu'on a voulu plutôt axer sur les aventures du prince Ahmed, mais elle a fait un travail plus condensé sur Lotte Reiniger, avec notamment une experte d'une fondation en Allemagne. Donc voilà, si jamais on vous listera aussi ça permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur Lotte Reiniger.
Pour continuer sur ce que tu disais justement sur son héritage, Pauline, il faut quand même savoir que déjà elle a créé de nombreux logos Lotte Reiniger, et notamment celui de la National Deaf Children's Society, qui est une association gouvernementale pour la protection des enfants touchés par la surdité anglaise, et c'est un logo qui est encore utilisé à l'heure actuelle. Donc pour l'héritage, c'est plutôt pas mal, et ça montre aussi l'importance de son travail juste artistique avec ses marionnettes et ses personnages. Et elle a réalisé notamment 2 derniers films qui me semble sont des films courts qui doivent durer une quinzaine de minutes. Donc il y en a un, c'est Aucassin et Nicolette, qui sort en 75, et l'autre c'est The Rose and the Ring, qui sort en 79. Et donc comme tu l'avais dit, elle a donné de nombreuses conférences sur le travail de toute sa vie. Faut savoir quand même que Lotte Reiniger, donc elle est décédée, elle meurt, excusez-moi, en 1981, donc du coup en Allemagne, dans le pays qu'il a vu naître. Et petite anecdote aussi, il y a quand même la société du coup américaine Google qui, ça dépend des jours de l'année, font ce qu'ils appellent des doodles, donc ça peut être des petits jeux ou simplement des illustrations. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir, donc du coup c'est un moteur de recherche, donc vous pouvez avoir plus d'explications sur la personne ou l'événement. Et pour ce qui aurait été son 117e anniversaire, si elle était encore vivante, ils ont fait un doodle, du coup, animé sur Lotte Reiniger. Vous pouvez le trouver parce qu'il les archive. Et donc, vraiment, ça la montre dans son style. Donc, du coup, cette marionnette toute noire, animée, en train de découper, comme si elle travaillait, en fait. Donc, c'est assez chouette.
Juste pour conclure sur ce que tu dis, on parle beaucoup de pionnières, on en a notamment parlé dans le premier numéro de notre revue, mais c'est quand même assez rare qu'on ait des pionnières qui ont pu parler de leur travail, et notamment, voilà, on en parlait, Lotte Reiniger a travaillé dans les années 20, le fait qu'elle puisse, alors j'ai trouvé d'ailleurs de manière assez facile, sur Google, on peut trouver des extraits de conférences, etc. Alors c'est pas en entier, parfois c'est en anglais, il n'y a pas forcément de traduction, mais en tout cas c'est vraiment des outils essentiels, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Lisa, on a quand même peu d'archives sur sa pensée, sur sa manière de penser son travail. Néanmoins, on a quelques archives sur sa manière de faire son travail, sur la manière dont elle fait son travail. Et je trouve ça quand même hyper important de le souligner, qu'on ait vraiment une pionnière qui a pu parler de son travail sans attendre que d'autres en parlent. Et je trouve ça quand même assez important.
Bah oui, parce qu'on en parlait surtout. On a beaucoup parlé d'Alice Guy, mais on n'est pas les seuls ces dernières années. C'est vrai qu'il y a énormément de documentation qui a été faite, que ce soit la BD que je vous conseille de Cathalie Bocquet, qui est assez énorme quand même, mais qui est vraiment bien, ou alors les quelques documentaires qui ont été faits. Mais Alice Guy, elle s'est battue toute sa vie pour être reconnue et on lui a jamais donné la parole, donc c'est vraiment une reconnaissance sur le tard. Alors que là, comme tu le dis, on a vraiment une femme, une réalisatrice qui a la parole. D'ailleurs, le petit film qu'on citait tout à l'heure où on la voit au travail, c'est, moi je trouve ça quand même toujours très émouvant quand on a accès à ce genre d'image et voir cette dame qui est une vieille dame, parce que c'est un film qui date des années 70, donc elle est déjà quand même très âgée, elle a vraiment ce petit air de grand-mère, et elle nous amène dans son atelier et vraiment elle anime tout, comme tu le disais, avec minutie, parce que tout est fragile, et elle explique en quoi consiste son travail et comment elle l'effectue. Et c'est assez bouleversant à regarder.
De toute façon, on vous met toutes les sources qu'on a citées et pas que. Donc vraiment, n'hésitez pas justement à lire. On fait en sorte justement de mettre toutes les sources pour pouvoir compléter notre travail, puisque évidemment en une heure on peut jamais vraiment tout aborder, mais fort heureusement on l'a dit, Lotte Reiniger, c'est une pionnière, mais elle n'est pas totalement oubliée, dans le sens où dans le monde de l'animation et du cinéma en général, on peut ne pas la connaître, mais il y a quand même des sources, que ce soit des documentaires, des livres ou des choses qui reviennent à elle, qui nous permettent justement d'accéder à son travail. Et petite anecdote pour conclure, même si avec Lisa on en parlait hors enregistrement, on ne peut pas trop en dire plus parce qu'on n'est pas assez experte, mais en tout cas on a vu qu'il y avait un format de fichier image pour les plus si jamais il y a des personnes qui travaillent dans le cinéma d'animation
sur After Effects
voilà, et qui s'appelle Lotte. Je trouve ça hyper adorable. Donc voilà, c'est vraiment une chouette référence et un hommage à cette pionnière du cinéma d'animation. C'est sur ces belles paroles qu'on conclut du coup notre épisode. Merci beaucoup Lisa d'avoir été dans la conversation avec moi. On était juste toutes les deux aujourd'hui.
Merci Pauline de m'avoir réinvitée. J'espère pouvoir revenir pour de nouvelles discussions et de nouvelles aventures.
Avec grand plaisir. Alors, petite parenthèse, vous avez dû entendre ma voix, je suis très enrhumée, donc désolée pour cette voix de canard avec le nez complètement qui prend de la place là dans ma voix, mais en tout cas, tout cas, j'espère que l'écoute n'aura pas été désagréable. Alors, on vous liste encore une fois toutes nos sources et plus dans la partie informative du podcast. On remercie encore chaleureusement Mubi, avec la plateforme avec laquelle on est partenaire, qui vous offre donc 30 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez profiter de ces 30 jours pour découvrir notamment les aventures du prince Ahmed. On vous liste aussi... à la fois le code, une liste de films qu'on a fait de réalisatrices connues ou non. Et puis on rappelle, parce que l'épisode sortira le 6 mai, que notre numéro 2 de notre revue papier sort le 9 mai, qu'on vous invite vivement à le feuilleter, à regarder ce travail qui nous a demandé plusieurs mois d'acharnement à toute l'équipe de Sorociné. Enfin, avant de conclure totalement la partie sur la revue, on vous invite aussi à une soirée de lancement qui aura lieu à la machine du Moulin Rouge le 11 mai, où avec Lisa notamment, on va enregistrer un podcast en live sur le film American Oni d'André Arnold, puisque la grande thématique de notre deuxième revue, c'est les États-Unis sur la période 2010-2020, où on parle notamment du road trip et de l'appropriation des territoires américains par les réalisatrices de cinéma. Donc on vous invite vraiment à venir y participer. C'est un événement gratuit, simplement il faut s'inscrire. Période de Covid oblige, et pour pas trop qu'on soit hyper stressé, il y a évidemment un nombre de places limité. On vous met également le lien dans la partie informative, comme ça vous avez juste à vous inscrire et on espère vous y voir nombreux et nombreuses. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est toujours Sorociné, à partager, liker, commenter cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Au revoir.
Salut.